Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une heure et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver Benoît Lallemand, le directeur des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Exceptionnellement, mon autre comparse du dimanche, Quentin Vasselin, m'a abandonné ce soir. Il a une bonne raison puisque c'était hier le mariage de sa maman. Alors j'adresse d'ailleurs tous mes vœux de bonheur à Valérie et José. Une nouvelle fois, c'est un programme riche qui nous attend. Dans un instant, nous traverserons la Manche. Novak Djokovic entre un peu plus dans la légende. Le Serbe s'est imposé en 4-7 en finale contre l'Italien Berrettini à Wimbledon. Il égale le record de Nadal et Federer avec un 20e titre en Grand Chelem. À moins de deux semaines des Jeux de Tokyo, nous prendrons des nouvelles de deux champions, le pentathlète Valentin Prade, qui effectue un dernier stage de préparation à Font-Romeu, et Nicolas Karabatic, qui va disputer ses 5e JO, sera en ligne avec nous à la veille de décoller pour le Japon. Nous accueillerons également Bénédicte Tassard du service étranger de RTL. Bénédicte est allée au Rwanda, où avait lieu récemment la Ligue de basket africaine, et elle a pu s'entretenir avec le discret Joachim Noah, qui veut trouver sur le continent de ses ancêtres les champions de basket de demain. Et puis en fin d'émission, nous retournerons bien sûr sur la route du Tour de France, retrouver les envoyés spéciaux de RTL et le manager de Cofidis, Cédric Vasseur. Mais tout d'abord, direction Londres, capitale du sport aujourd'hui. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Wembley où aura lieu dans moins de deux heures la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. J'imagine Philippe qu'il y a déjà de l'ambiance dans les tribunes.
Oui, alors vous savez, en Angleterre la tradition c'est d'arriver un peu au dernier moment au stade, hein, parce qu'il y a une autre tradition, c'est de rester très très longtemps dans les bars, voire en terrasse, même si c'est pas encore franchement l'été ici. Mais il y a un petit parfum de 12 juillet 98, si vous vous souvenez, en France, comment ça se passait, une journée interminable comme ça où tout le monde attendait cette finale. L'Angleterre s'est mise sur pause et n'attend qu'une chose, c'est le coup d'envoi de cette rencontre dans moins de deux heures maintenant.
Benoît.
Et l'Angleterre, Philippe, attend depuis très 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 longtemps cette finale.
Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le temps s'étire et les années sont de plus en plus lourdes à porter, la pression des sélectionneurs. C'est la grande force de Gareth Southgate qui, depuis quelques temps, a réussi à ramener du calme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'outrance permanente des années Beckham où on attendait toujours monts et merveilles de cette sélection. Là, il accepte parfois de jouer pas très très offensivement. Par exemple ce soir, il se murmure là que c'est Trippier qui va jouer dans le couloir droit à la place de Saka, c'est-à-dire que ça va être un choix beaucoup plus défensif que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais il est pragmatique, c'est un petit peu le terme qu'on employait à l'égard de Didier Deschamps, qui est un des modèles de Gareth Southgate, et c'est peut-être ce qui va lui permettre de faire tomber cette pression et enfin de faire gagner l'Angleterre après 55 ans d'attente.
Oui. Et cette équipe d'Italie là, qui finalement, on peut pas dire qu'elle nous a vraiment surpris, mais qui est quand même métamorphosée, qu'est-ce que vous en pensez? Et à votre avis, est-ce qu'elle a une vraie chance de pouvoir bousculer ces Anglais à domicile qui sont assis quand même sur un tas de confiance assez impressionnant?
Oui, les Italiens, ils reviennent un petit peu de nulle part aussi. Il faut se souvenir de l'humiliation de 2018 pour la première fois, cette immense nation du foot, quatre fois championne du monde, qui n'est pas allée à Moscou, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde 2018. Ça a été vécu comme un traumatisme. Ça a permis aussi à Mancini de repartir sur des bases qu'il espérait nouvelle, avec un milieu de terrain, avec des joueurs comme Barella ou Jorginho et Verratti, de croire en ces garçons, de les emmener. Et maintenant, ça fait 33 matchs consécutifs qu'ils n'ont plus été battus. C'est le record pour une sélection italienne. Évidemment, la dernière marche, c'est la plus importante, c'est ce soir. Il est évident que dans ce Wembley chargé d'histoire, les Italiens ne peuvent pas partir favoris. Mais on sait que c'est dur aussi de l'emporter à domicile. On est bien placé pour le savoir. En 2016, l'équipe de France face au Portugal.
Et les deux dernières fois, d'ailleurs, je crois que ceux qui ont joué à domicile ont perdu, hein, si je ne me trompe pas.
Il y a eu la Grèce en 2004 qui était allée l'emporter au Portugal. En fait, il faut remonter à France 84. Michel Platini, Alain Giresse et la troupe qui avaient réussi à l'emporter au Parc des Princes à domicile. Donc c'est pas si évident en fait de supporter cette pression de jouer à domicile une finale.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe Sanfourche. Bon match tout à l'heure. On vous retrouve dès 20h dans RTL Foot spécial finale de l'Euro avec les copains Eric Silvestro et Giovanni Castaldi.
Isabelle Langer.
On refait le sport sur RTL
avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Ce revers termine sa course dans le filet. Novak Djokovic enfin est à terre, vont se dire ses adversaires. Oui, mais il est à terre parce qu'il n'y a plus personne devant lui. Trois grands chelems cette année, trois grands chelems pour Novak Djokovic.
Winning Wimbledon was always a biggest dream of mine when I was a kid.
Wimbledon était le plus grand rêve quand j'étais gamin.
Because I have to remind myself how special this is and not take this for granted.
Et donc à chaque fois je sais ce que ça représente pour moi. J'essaie vraiment de ne pas le considérer comme acquis.
This is a huge honor and privilege.
Et je sais combien c'est un vrai privilège.
Djokovic, grand gagnant de Wimbledon, au micro de nos confrères de beIN Sport et traduction signée Frédéric Viard. Novak Djokovic écrit effectivement sa légende, Benoît Lallemand. Le Serbe a remporté la finale de Wimbledon. Il s'est imposé en 4-7 contre l'Italien Matteo Berrettini, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Il égale ainsi le record de Nadal et Federer avec un 20e titre en grand chelem, le 6e à Wimbledon surtout. Il le disait Frédéric Viard, hein, Djokovic peut rêver de boucler le grand chelem sur l'année calendaire, ce que l'Espagnol et le Suisse n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire remporter la même saison l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. À défaut d'être numéro 1 dans le cœur du public, j'ai envie de dire que Djokovic veut laisser une trace indélébile dans le livre des records du tennis. Et on va accueillir sans plus attendre Julien Varlet, ancien joueur, consultant tennis du groupe Canal+, et coach à la French Touch Academy. Il vous a épaté ce Djokovic-là, Julien ?
Bonjour à tous. Ce qui m'épate surtout, c'est que on a toujours cette sensation un peu de cette froideur. Donc mentalement déjà, faut pas oublier que c'était la première finale de Berrettini, mais plus on se rapproche du titre, plus lui aussi a cette pression, parce qu'on lui dit qu'il se rapproche du 20e, qu'il se rapproche aussi de potentiellement faire le grand chelem dans une saison. Donc déjà ça, je trouve que par sa mentalité et son état d'esprit, il est tout simplement phénoménal. Et il est d'autant plus phénoménal dans le tennis aussi, c'est que pour moi, il se met vraiment au diapason de ses adversaires. Il y a par exemple, sur cette quinzaine, le match de Garin. Il ne fait pas un match exceptionnel, mais parce que l'adversaire n'a pas besoin de hausser trop son niveau de jeu. Par contre, là, effectivement, aujourd'hui, contre Berrettini n'a pas raté du tout sa finale. Hein. Il a fait un très, très bon match. Mais quand vous rentrez un peu dans le détail, il fait 10 fautes directes dans le premier set qu'il perd. Et après, il fait 4, 3 et 4 fautes directes sur les 3 autres sets. Donc, il est tout simplement extraordinaire. Et il rajoute un petit peu. Il fait tout bien et tout mieux que les autres, parce qu'il a même fait quelques phases tactiques qu'il fait pas très souvent. Il a enchaîné des services volés pour écourter un peu le jeu, pour surprendre un peu Matteo Berrettini. Donc effectivement, alors après je vais être assez basique, mais il est tout simplement phénoménal. Mais moi, il m'impressionne encore plus dans l'aspect mental que dans l'aspect tennistique.
Il était entendu d'ailleurs, un Benoît Lallemand, au début du match, Djokovic quand même. On sentait qu'il y avait quand même une certaine peur.
Mais on dirait qu'il a du mal, il a fait presque une spécialité d'avoir du mal à commencer ses matchs importants, hein, perdre ses premiers sets ou jouer à l'envers, jusqu'à cette fameuse pause pipi, toilette, vestiaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qu'il en a presque besoin et que c'est maintenant, je ne dirais pas une routine, mais en tous les cas, c'est des schémas dans lesquels finalement, il est assez confortable. Alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais c'est assez étonnant cette propension à répéter ces scénarios.
Et puis surtout, Julien, il n'a perdu finalement que 2 sets en tout et pour tout hein, dans ce tournoi.
Ouais, et puis premier match, il joue le jeune Draper britannique, gaucher, premier match sur le central, donc effectivement. Et pour revenir sur ces fameuses pauses, vous savez, quand vous faites aussi de la préparation mentale, il y a aussi certaines choses qu'on vous explique, c'est des rituels. Et effectivement, il fait la pause là, quand il revient, c'est partout. Et je pense que cette pause-là, il va pour changer de t-shirt. Peut-être que ce rituel-là, changer de t-shirt, lui permet de se mettre dans pas un état second, mais d'être dans une autre façon de penser. Et voilà. Et il revient sur le terrain, il a un match classique à faire, parce qu'après, il reste au maximum 3-7 à faire. Et je pense que c'est ça, c'est ce fameux rituel qui lui permet d'être encore un peu plus dans ses matchs. Et comme le disait la personne à vos côtés, Benoît, voilà. Ces derniers matchs, un peu comme contre Shapovalov, ce sont des joueurs qui font le jeu. Donc effectivement, il rentre un petit peu dans ces matchs en disant, je me mets un petit peu loin. De toute façon, le tennis reste un sport de pourcentage. Ils vont peut-être me faire 4, 5, 10 coups gagnants, mais sur la globalité, ils vont faire 20, 25 fautes directes. Et c'est moi qui vais l'emporter. Donc il se met un petit peu derrière, il attend, et hop, quand il faut hausser le niveau de jeu, comme par exemple le dernier jeu à 5, à 5-3 là, ouais. Quand Berrettini sert, il a plusieurs balles de match, mais il y va, il fait le jeu, il sait qu'il veut, il doit bousculer Berrettini, il sait qu'il peut aller chercher ce match à ce moment-là. Et voilà, moi je trouve ça tout simplement extraordinaire parce qu'il fait tout mieux que les autres.
C'est vrai, il peut en agacer certains. Moi la première, des fois il m'agace parce que il transpire pas sur le court, ça me gêne un peu, parce qu'il a cette façon d'essayer de séduire le public, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais à côté de ça, mais quel joueur! Et puis, s'il gagne à l'US Open au mois de septembre, il n'y aura plus photo.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, il est tellement fort mentalement, durant le troisième set, il va chercher le public. Parce qu'il y a un moment un peu chaud et les gens encouragent Berrettini.
Ah
parce
ouais, ça crie Matteo dans le
voilà.
Coup, sur le
court. Et là, il a deux balles de break à sauver, il revient à 40 ans, il regarde le public, il dit mais non, mais c'est moi le patron là. Là, c'est moi le patron. Et donc, il en joue aussi. Et je pense qu'il se nourrit un petit peu.
Ça le galvanise gens, en fait, hein, d'avoir le public contre lui.
Je pense parce que son histoire aussi, l'histoire qu'il a vécue très jeune, l'histoire aussi de son pays, fait que voilà, il a toujours été dans le dur. Et je pense qu'il se nourrit de ça. Et la deuxième chose, on parle de l'US Open, mais il ne faut pas oublier quand même que mine de rien, il y a les JO aussi avant.
C'est ça.
Donc il peut peut-être faire grand chelem et peut-être médaillé d'or. On verra.
Oui, on verra. Après là, tout de suite, on se demande ce qui peut lui arriver, parce qu'effectivement, il est injouable. C'est pas Federer, on l'a vu, c'est pas Nadal qui vont l'empêcher de gagner l'US Open. Après, quand même, il reste sur un très mauvais souvenir à l'US Open. Faut pas oublier,
avec l'arbitre,
il a quand même été disqualifié de l'US Open. Il s'est reconstruit. Alors, dans quel état d'esprit il sera en arrivant à New York, c'est une question. Et puis, est-ce que ça va pas être trop au moment? C'est-à-dire que
Ça va être lourd. Hein. Le seul qui a réussi ce grand chelem calendaire, c'est Rod Laver en 1969. Autant vous dire presque une éternité, même si c'est une très belle année. ça va être quand même un poids pour lui, Julien.
Alors après, il ne faut pas oublier qu'en 69, en plus, 3 des 4 grands chelems étaient sur gazon. Donc,
oui.
Je pense qu'il a, vous savez, en 2016, quand il gagne son Roland-Garros, et derrière, il a un gros problème mental, on ne le voit plus, il est épuisé. Je pense qu'il a pris, cette expérience-là, voilà, il en a tiré des leçons pour ce qui se passe actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'aussi, l'erreur qu'il a faite en étant disqualifié en septembre dernier à l'US Open, il en a tiré les conséquences de se canaliser encore un peu plus sur le terrain. Et effectivement, quand il va arriver à l'US Open, les cartes seront entre ses mains parce que effectivement, même Rafa se prépare pour l'US Open, mais c'est jamais là où il a été le meilleur. Federer, on sait pas du tout ce que ça va valoir sur dur parce que l'aspect physique va être aussi très important. Donc, effectivement, tout va être focalisé sur lui. Toute la pression va être sur lui. Maintenant, là, déjà sur Wimbledon, on a vu que la pression était vraiment présente et il l'avait au fur et à mesure du tour. Les gens ne font que ça, lui répéter ça. Donc, maintenant, c'est une machine.
Ouais.
Mais
il est en train d'écrire sa légende quand même.
Ouais, et puis j'ai l'impression que même parfois à certains moments du match, alors c'est un truc bizarre ce que je vais vous dire, mais il sort de son corps, il a un recul et on a l'impression qu'il est même plus avec nous. Il est dans
on le voit hein, quand il est assis sur sa chaise, des fois il a le regard qui. Oui, vous avez raison. C'est comme si il regardait le gars jouer sur le court.
Il atteint un niveau aussi de. C'est pour ça que le jeu en lui-même, le coup droit, le revers et tout ça, il a progressé au service. Il a excessivement bien servi ici sur ce Wimbledon. C'est une chose effectivement. Mais quand vous regardez, qu'est-ce qui se fait à la fin? C'est pas que le tennis. Ce n'est qu'une question de tronche. Shapovalov, il le bat pourquoi? Parce que Shapovalov, dans le premier set, il a un coup droit très facile qui peut lui permettre quasiment de gagner le premier set. Il le fait pas. Mais c'est pas qu'une question de tennis, c'est pas qu'une question de physique. Ce n'est que de la tronche. On arrive dans un niveau et à ce niveau-là, c'est même plus l'aspect savoir faire le coup droit, le revers. Les joueurs le savent le faire, même les joueuses. Mais c'est la gestion des émotions. Comme hier, un peu une Barty contre une Pliskova, elle a réussi à gérer un peu mieux ses émotions. La gestion de l'émotion et la gestion du stress.
Eh bien, on lui donne maintenant rendez-vous aux Jeux Olympiques à Tokyo et puis à l'US Open en septembre. Merci beaucoup, Julien Varlet, d'avoir
avec
été
plaisir.
Avec nous ce
avec
soir.
Plaisir.
Ça nous a rappelé des bons souvenirs de feu RTL l'équipe. Il est 19h18 sur RTL. Restez avec nous, une petite minute de pause. Et puis nous revenons avec la page olympique et nos deux invités de prestige, Valentin Prade et Nicolas Karabatic.
RTL.
On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Et ce sera un tandem. La judokate Clarisse Agbegnénou et Samir Aitsei défileront à la cérémonie d'ouverture le 23 juillet. Ils vont succéder à Teddy Riner.
C'est vraiment un honneur pour moi. En plus, je sais qu'on a toutes les athlètes hors normes dans cette équipe de France. Donc, qui m'ait choisi moi, c'est qu'ils ont confiance en moi. Et je suis très honorée de ça.
C'est plus qu'un honneur. J'avais des larmes aux yeux. C'était une fierté parce que j'ai une histoire particulière avec les Jeux et j'ai envie d'écrire un très beau chapitre. Je veux aller là-bas pour gagner et je veux qu'il y ait le plus de médailles possible.
Samir Aït Saïd et Clarisse Agbegnénou entendent bien en effet insuffler de la force et une belle dynamique à l'équipe de France Olympique. Les porte-drapeaux de la délégation tricolore ont été désignés par leur père. La quintuple championne de judo du monde de judo a notamment été préférée à la vice-championne olympique de lancer du disque Mélina Robert-Michon. Et Samir Aït Saïd a grillé la priorité à deux champions olympiques quand même, Benoît Lallemand, Renaud Lavillenie et Florent Manaudou. Bonsoir Gaëlle Slimane.
Bonsoir.
Gaël, vous êtes le président d'Odoxa et dans votre sondage de la semaine pour Winamax et RTL, consacré notamment à cette désignation des porte-drapeaux, si une majorité des Français approuvent ce choix, en revanche, finalement, peu connaissent Clarisse Agbegnénou et Samira Aït Saïd.
Oui, il y a un petit déficit de notoriété de ces deux athlètes par rapport à leurs illustres prédécesseurs. Vous en avez cité quelques-uns, évidemment, si on remonte à Marie-Jo Pérec ou encore à David Douillet et bien d'autres. Ouais. On est sur des athlètes qui sont moins connus. Mais en même temps, c'est bien normal. Et les Français interrogés, et surtout les amateurs de sport, pour ceux qui les connaissent, en tout cas, sont 6 ou 7 fois plus nombreux à estimer que c'est un bon choix plutôt qu'un mauvais choix. Reste encore à faire davantage connaître, et les Jeux y serviront, ces deux athlètes formidables.
Un porte-drapeau est plus qu'un faire-valoir, en tous les cas, pour eux.
Un porte-drapeau pour les Français, c'est quelque chose de très important sur le plan symbolique, sur le plan des valeurs. C'est ce à quoi nos concitoyens attachent le plus d'importance s'agissant du porte-drapeau, c'est qu'ils mettent en avant les valeurs françaises. Donc plutôt que d'avoir des stars à paillettes, si j'ose dire, avoir des sportifs qui portent haut les valeurs françaises et les couleurs de la France et qui ne portent pas trop de casseroles, si j'ose dire, c'est quelque chose qui est important pour nos concitoyens. Ensuite, l'aspect que ces athlètes puissent fédérer et animer la délégation française va jouer aussi, mais finalement, on ne leur met pas trop la pression. Nos concitoyens n'attendent pas spécialement que les porte-drapeaux obligatoirement ramènent des médailles, mais en tout cas qu'ils aient qu'il fasse honneur au drapeau français.
Alors cette semaine, Benoît Lallemand, Gaël Slimane, Tokyo est repassé en état d'urgence sanitaire et les organisateurs ont décidé qu'il n'y aura pas de public pour assister en tous les cas aux épreuves qui se déroulent dans la capitale nippone. Il faut rappeler que les Japonais sont à une grande majorité contre la tenue de ces JO. Qu'en pensent les Français, Gaël Slimane ?
Vous avez raison, Isabelle. C'est vrai que les Japonais sont hostiles à la tenue des JO sur leur sol. Ils sont très nombreux à ne pas être vaccinés. Ils ont une politique sanitaire différente de la nôtre, liée à la distanciation plutôt qu'au vaccin. Et du coup, ils ont très peur de ces JO. Et nos concitoyens le comprennent. Les Français et même les amateurs de sport, bien que eux aient très envie de suivre les JO, sont une majorité à comprendre que la population japonaise soit opposée à la tenue de ces JO sur leur sol. Donc il y a de la compréhension de la part de nos concitoyens à l'égard des Japonais.
Alors la dernière question, Gaël Slimane, concernait le football aux Jeux Olympiques. Alors on sait que Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France, a bien du mal à constituer son équipe. Ouais. Beaucoup de clubs refusent de libérer leurs joueurs. C'est le cas de l'OGC Nice qui s'est opposé à ce que sa petite pépite, Amine Gouiri, rejoigne l'équipe de France Olympique. Même sort d'ailleurs pour le Rennais, Eduardo Camavinga. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent les Français là-dessus ?
Eh ben, ils aimeraient bien, c'est pas nouveau. On a déjà interrogé une semaine précédente les Français sur ces sujets du foot au JO. Et les Français trouvent ça scandaleux. Ils sont très choqués que les clubs n'aient pas permis de libérer leurs joueurs. Et donc, assez logiquement, ils aimeraient bien que le calendrier de la FIFA intègre les Jeux Olympiques pour que, eh bien, exactement comme c'est le cas avec l'Euro de foot, par exemple, eh bien, dans le programme, on prévoit qu'il y ait ces Jeux Olympiques et que ça permette aux joueurs d'être libérés pour aller y participer. Les Français sont une majorité à le souhaiter et les amateurs de sport encore plus. Pratiquement les deux tiers d'entre eux le souhaitent, tout simplement parce qu'ils aimeraient voir de très bons jeunes joueurs, et moins jeunes pour quelques-uns, participer aux Jeux Olympiques et porter haut nos couleurs.
Merci beaucoup Gaël Slimane. Bonne Merci. Soirée à vous, à bientôt.
À bientôt.
Génération Olympique, en route vers Tokyo.
Avec les étoiles du sport.
Notre prochain invité, Benoît Lallemand, est un habitué des étoiles du sport. Bonsoir Valentin Prade.
Bonsoir à tous.
Pentathlète, champion d'Europe, vice-champion du monde, quatrième au JO de Rio il y a 5 ans. Valentin, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle à nos auditeurs ce qu'est le pentathlon rapidement, Valentin.
Alors le pentathlon, rapidement, c'est le chevalier des temps modernes. Donc c'est un athlète qui fait de l'escrime, de la natation, de l'équitation, du tir et de la course mélangée, comme en biathlon.
Alors avant toute chose, nous parlions tout à l'heure des porte-drapeaux français. Clarisse Agbenienou, Samira Ait Said. Notre sondage Odoxa révèle que les Français les connaissent peu. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence par rapport à la Villeni, Manodou, Robert Michon? Est-ce que vous, qui vous entraînez à l'INSEP, on sait qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont voté et qui sont à l'INSEP, est-ce que ça a pu faire la différence?
Ben, je pense que ça a pu faire la différence, d'autant plus que ces deux très très grands champions, et par le palmarès et par aussi l'attitude, c'est des gens qui sont exemplaires dans leur entraînement, dans ce qu'ils dégagent et qui sont toujours très avenant, très ouvert avec les autres sportifs. C'est deux personnes que je côtoie assez régulièrement et j'étais vraiment très 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 heureux pour eux qu'ils soient élus porte-drapeau et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils sauront mettre de l'ambiance dans la délégation française.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir Valentin. On a l'impression que jusque-là, fallait être champion olympique et là, au-delà du palmarès, ils ont chacun un palmarès et Clarisse a un énorme palmarès.
C'est des personnalités.
Mais exactement, ils ont une histoire et une personnalité et que on a considéré que ça comptait pour porter le drapeau, c'est-à-dire que porter le drapeau, c'est aussi emmener l'équipe, c'est important, et il y a un rôle à jouer. Alors évidemment, ils y vont chacun pour aller faire une médaille et un titre, si possible, mais ils ont aussi un rôle à jouer pendant cette quinzaine.
Oui, bien sûr, le porte-drapeau, c'est quelqu'un qui doit être à l'image de toute l'équipe de France Olympique, donc déjà quelqu'un qui doit être exemplaire, et avec ces deux sportifs, on est vraiment en plein dedans, je dirais même ces quatre sportifs, puisqu'il y a eu aussi les deux athlètes paralympiques, Sandrine et Stéphane, qui ont été
Sandrine
aussi nommés.
Sandrine Martin et Stéphane Oudé, hein.
Exactement, et c'est vrai qu'aujourd'hui on fait une seule et même équipe de France, donc il faut pas aussi les oublier. Et concernant Clarisse et Samir, au-delà du palmarès qui est plus qu'impressionnant, notamment Clarisse qui est le plus beau palmarès du judo français féminin, me semble-t-il.
Oui.
En termes de championnat du monde, c'est des sportifs qui sont aussi très ouverts avec les autres et qui sont des champions sur le terrain, mais aussi des champions humainement. Qui sont des exemples pour nous, Samir avec l'histoire très particulière qu'il y a eu avec les Jeux.
On n'a pas oublié les images des Jeux de Rio, hein, sa blessure.
Ça nous avait tous choqués aux Jeux. Mmh. Moi, personnellement, je venais d'arriver au village, j'avais vu ça. Enfin, vraiment, ça avait mis un gros froid au Club France. Donc, il revient de très très loin avec cette grosse blessure et c'est quelqu'un qui a été un exemple pour tous les gens, parce que, pour tous les sportifs surtout, parce qu'on a tous, des pépins dans notre carrière. Et vraiment, arriver à revenir à ce niveau-là, pour lui, c'est vraiment exemplaire. Donc moi, vraiment très 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 satisfait de ces deux porte-drapeaux, d'autant plus qu'ils peuvent nous ramener des médailles et qu'ils seront
montrer l'exemple,
qu'ils seront mettre de l'ambiance dans l'équipe de France et être un des exemples pour nous tous.
Valentin, qu'est-ce qu'on fait dans un stage dernier stage à Font-Romeu avant d'aller aux Jeux? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors moi, pour ma part, j'ai choisi de me préparer à Font-Romeu, voilà, pendant 4 semaines. Donc là, je vais attaquer ma dernière semaine demain. On a fait pas mal de volume au début, mais on reste surtout dans la qualité. Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est de pas se blesser. Hein, parce que moi, j'ai eu quelques problèmes de dos sur les saisons précédentes que j'ai réussi à régler. Et ensuite, voilà, on essaie de monter en puissance, de monter en confiance aussi. Et d'être vraiment très 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 concentré sur cet objectif qui est dans moins d'un mois pour moi, puisque je suis à la fin des Jeux Olympiques. Voilà. Donc j'aurai pas la chance de pouvoir faire la cérémonie d'ouverture, je serai encore à Paris puisque je décolle le 28. Mais voilà, je suis vraiment très très concentré avec l'ensemble de mon staff. On est tous à Font-Romeu, on est un petit comité restreint et on travaille vraiment dans la qualité.
Il y avait un très bon article ce matin du Parisien qui parlait de la thermoroom. C'est cette salle surchauffée à l'INSEP qui permet de s'entraîner dans les conditions que vous allez retrouver à Tokyo. La chaleur, l'humidité. Est-ce que vous en êtes servi?
J'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Pour tout vous dire, dès mon retour à l'INSEP, j'ai déjà fait 2 blocs sur la fin de l'hiver et le printemps. Et j'ai une dernière semaine de rappel où je vais courir 5 fois dans la semaine. Alors pas la semaine prochaine, mais dès que je rentre à l'INSEP, vraiment juste avant de décoller pour Tokyo, pour habituer à mon corps à la chaleur. D'autant plus que je suis un athlète qui, sur le papier, aime pas trop la chaleur. Donc voilà, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, je suis un grand gabarit, assez lourd. Donc la chaleur, c'est sur le papier, ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, on a travaillé avec tout le service scientifique de l'INSEP dans cette thermo training room, avec les nutritionnistes aussi, pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté à Tokyo pour aller décrocher la médaille d'or.
Oui, alors, on imagine que ça fait un moment que vous attendez, comme tout le monde. Ça fait maintenant 5 ans que Rio c'est terminé. 5 ans, c'est long. Dans quel état d'esprit vous êtes? De l'impatience, d'essayer de garder la sérénité? Comment ça se passe ces derniers jours?
beaucoup d'impatience. Alors moi, je me dis que finalement, je décolle presque dans 3 semaines encore. Donc je suis encore assez serein, c'est pas tout de suite. Et mais il y a quand même une grosse envie, je sens la forme qui arrive en plus là. Je me sens monté en puissance, donc j'ai vraiment pouvoir hâte d'aller me bagarrer avec les autres. Il y a un petit peu de pression aussi quand même, hein, je vais pas vous mentir. Je commence à me faire un petit peu dessus.
Mais bon, ça va passer.
Voilà, c'est vrai que c'est une fenêtre de tir, c'est tous les 5 ans, on sait quand on est aux Jeux Olympiques, on sait pas quand on y retourne. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je prépare assidûment depuis 5 ans et c'est l'objectif de ma carrière. Donc voilà, j'ai quand même la pression, mais c'est une pression qui est saine, qui est positive et qui de toute façon quand je l'ai pas, moi personnellement, j'arrive pas à être performant, donc je suis content de la sentir monter en moi.
Benoît. Et
une question, ça va être des jeux particuliers, oui. Un, parce qu'il n'y a pas de public, alors c'est pas la première fois qu'on vous pose la question, mais il faut évidemment le prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est comment on vit avec ce virus qui est partout et qu'il faut absolument que vous évitiez d'attraper, parce qu'il ne faut surtout pas être positif.
Oui, c'est vrai. Alors on vit dans beaucoup de rigueur. Surtout sur les personnes qu'on rencontre, c'est vrai qu'on a nous personnellement, on a créé une bulle sanitaire autour de notre stage, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas sortir de la bulle, on est testé 2 fois par semaine. Alors on n'a pas eu quelqu'un positif et heureusement, mais il y a tout un protocole sur les masques pour ne pas être qu'à contact de quelqu'un qui fait partie du groupe. Et voilà. Alors après, je suis vacciné personnellement. Donc je me dis que ça minimise mes chances d'être positif, mais malgré tout, il faut quand même que je reste très 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 attentif. Et c'est vrai que ça va avec la rigueur de toute façon qu'on doit s'imposer avant les Jeux Olympiques. Donc personnellement, c'est pas quelque chose que je vis très très mal.
Valentin, vous faites partie des étoiles du sport. On va accueillir notre prochain invité. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partager justement des moments avec Nicolas Karabatic ?
Alors malheureusement non. mais ce sera un plaisir d'échanger. Moi, je me souviens être allé voir la finale à Rio. Où ils avaient malheureusement perdu, mais être resté jusqu'à la fin. Et j'avais raté la cérémonie de clôture, du coup, parce que j'étais resté jusqu'à la fin de la finale de hand.
Merci beaucoup, Valentin. Bonne fin de prépa.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve à Tokyo.
Merci à vous. Rendez-vous le 7 août
pour exactement. Le et avant, sur l'antenne d'RTL, avec une. Je vais vendre ma chronique, tant et qu'à ben... faire. Avec une table allongée où la maman de Valentin nous parle de Valentin depuis la naissance. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Valentin. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée.
Bonsoir, Nicolas Karabatic.
Bonsoir Isabelle.
Comment ça va? Vous êtes en stage, vous êtes avec l'équipe de France à la maison du handball à Créteil. Hein. Vous vous envolez demain pour le Japon.
Oui, voilà, on vient juste de terminer notre entraînement. À temps, il m'avait dit, on avait calé par rapport à l'interview, donc on est bien.
De retour après 16 mois d'absence avec les Bleus, ça fait du bien de retrouver, j'ai envie de dire, la famille.
Ah, ça fait énormément de bien de retrouver les Bleus, de refaire partie de l'équipe, de rejouer avec eux, de faire toute la prépa. C'était mon gros objectif cette saison, surtout après ma blessure. Et ouais, je suis heureux et fier d'être là. Et maintenant c'est le travail avant les JO.
On rappelle, hein, Benoît Lallemand, opération des ligaments croisés du genou droit.
Et justement, à ce propos, bonsoir Nicolas, comment allez-vous? Est-ce que vous vous sentez à 100% à l'heure qu'il est?
C'est difficile de répondre à cette question. Parfois, j'avais pas de blessure et je me sentais pas à 100% parce que on a toujours des petits pépins sur le terrain. En tout cas, je pense que au niveau de mon genou et des sensations que j'ai, elles sont très très bonnes. Donner un pourcentage, je saurais pas dire. Mais en tout cas, moi, comment je me sens à l'entraînement, sur le terrain, c'est très positif. Je prends du plaisir et je me sens compétitif et je sens que je peux aider l'équipe. Donc déjà ça me donne énormément de confiance.
5e Jeux Olympiques pour vous. Vous avez 37 ans, Nicolas. Vous faites presque partie des vétérans. Hein. Il y en a 2 qui sont plus vieux que vous dans le groupe. Yann Gentil, l'un des gardiens, qui a 39 ans et demi. Ça compte les demi-années. Et Mickaël Guigou, 39 ans. Qu'est-ce qui vous fait encore courir?
La compétition et le plaisir de jouer et le handball qui est ma passion. Ah, c'est vrai que j'ai 37 ans et c'est vrai que je vais participer à mes 5e Jeux Olympiques. Mais pour moi, l'excitation et la joie est la même que pour mes premiers. Et comme vous l'avez dit, il y a 2 joueurs qui sont plus âgés que moi. Il y a Yann, qui a 40 ans et qui va faire ses premiers Jeux. Donc dans le sport, les années, je sais que vous aimez en parler, mais pour nous...
Ça compte pas.
Ça compte.
Non,
ça
mais
compte
je
pas
vous
vraiment.
Rassure, pour nous aussi, ça compte
pas. À 24 ans... Ouais. Oui, voilà. À 24 ans, j'étais déjà vétéran dans cette équipe-là. Donc, et puis, je suis aussi fier, voilà, à 37 ans après une grosse blessure de revenir. Ça montre aussi à tous les, entre guillemets, quand vous dites vieux sportif ou même vieux sportif passionné, que il est jamais trop tard et qu'on peut jouer et qu'on peut être compétitif même à un âge avancé.
Benoît.
Isabelle vient de le rappeler, vous disputez vos 5e Jeux Olympiques. Dans quel état d'esprit vous et l'équipe de France abordez-vous ces Jeux? On n'imagine pas tout à fait dans le même état d'esprit que ce 2016, 2012 ou 2008.
À huis clos, sans famille autour de vous?
Oui, ça va être des Jeux très particuliers. À huis clos, je sais même pas si sur la cérémonie s'il y a eu quelque chose qui a été décidé, mais je pense qu'ils vont minimiser aussi, donc pas de cérémonie, pas de public, le côté positif, joyeux, un peu festif des Jeux pour les athlètes, ben il va être mis de côté. Mais voilà, c'est la donne, c'est comme ça, et je pense que malgré tout ça, on est fiers d'être aux Jeux Olympiques et qu'on va se donner à fond. Après, oui, comme vous l'avez dit, par rapport à peut-être 2016, 2012 et 2008. On n'est pas dans la peau du grand favori, hein, parce que sur les deux trois dernières compétitions, même si on a fait demi-finale là au Mondial, on a fini quatrième, au dernier Euro en 2020, on avait fait une contre-performance, donc on est plus dans la peau du challenger. Mais on sait aussi qu'aux Jeux Olympiques, c'est une compétition vraiment différente, avec une pression qui est énorme et où les favoris répondent pas forcément présents. Hein. Donc en tout cas, nous on croit en nos chances.
Et vous partez demain justement, Nicolas. Il y aura deux matchs avant le début du tournoi olympique. Le 18, ce sera contre le Japon. Le 21, contre le Danemark. Ils sont importants, ces deux matchs-là, pour vous, pour retrouver peut-être le rythme, et puis pour l'équipe de France, pour prendre ses marques.
Oui, ces matchs-là sont très importants parce qu'on n'a que trois matchs amicaux avant le début des Jeux. Et on en a déjà fait un contre l'Égypte. Mmh. Et maintenant, il nous reste Japon et Danemark. Enfin, c'est pas du luxe, on a besoin de ces matchs amicaux justement pour répéter, pour mettre en réalité, voilà, sur des matchs contre des bonnes équipes, ce qu'on travaille à l'entraînement. Donc l'entraînement c'est bien, mais il faut nous exercer aussi en match, prendre du rythme, des repères avec les coéquipiers, en attaque, en défense, répéter les tactiques. Donc les matchs amicaux, même si les résultats sont pas importants, mais les matchs en eux-mêmes sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de jouer et de prendre de la confiance. Donc ce sera pas du luxe, voilà, deux, trois matchs en tout et pour préparer ces Jeux Olympiques.
Ces Jeux Olympiques et des matchs de poules qui vont pas être faciles, parce que on peut pas dire que vous ayez été gâté par le tirage au sort.
On rappelle les équipes, hein, l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, la Norvège. Voilà.
Oui. Oui, c'est la poule
de la mort.
Oui, quand on la regarde, il y a que deux poules, hein, donc. Mais non, il y a là, je pense que ce côté-là est assez relevé et ça va être. Mais de toute façon, aux Jeux Olympiques, comme il n'y a que 12 équipes, chaque match est
important.
Chaque match est très important et chaque match est relevé. Mais c'est sûr que ça va être dur. Et on est aussi conscient, avec l'expérience qu'on a, que les matchs de poule sont très importants. Mais que le plus important, c'est de passer en quart de finale. Et qu'à partir du quart de finale, c'est une toute autre compétition. J'ai l'expérience, moi, avec mes premiers Jeux en 2004, où on a dominé les phases de poule, on a terminé premier, en battant l'Allemagne facilement, voilà, en battant beaucoup d'équipes, et on perd en quart de finale contre les Russes qui avaient fini quatrième et qui font médaille de bronze, et nous on rentre à la maison déçus et très tristes. Donc, et alors quand par exemple en 2012 on perd l'Islande en phase de poule, et derrière on est champion olympique, donc on sait que les phases de poule sont importantes, mais que l'histoire commence à s'écrire à partir des quarts de finale. Donc il faudra bien aborder cette phase de poule, surtout finir dans les quatre premiers. Et surtout garder confiance en nous et s'améliorer match après match.
Merci beaucoup Nicolas Karabatic. Bon vol demain pour le Japon.
Merci.
À bientôt.
Merci.
À bientôt. Dans l'actualité olympique du jour, grosse frayeur pour Renaud Lavillenie qui s'est blessé à la cheville gauche à l'échauffement juste avant le début du meeting de Sotteville-lès-Rouen. Le champion olympique 2012 est mal retombé sur le côté du tapis de réception. Il est allé passer des examens à l'hôpital. J'ai eu son agent au téléphone. Il était plutôt rassurant. Grosse entorse, 10 jours d'arrêt, mais c'est quand même une course contre la montre, Benoît, qui s'installe pour lui pour être prêt dans 3 semaines à Tokyo.
Évidemment, on sent bien là que tout le monde se prépare et que tout le monde cherche à avoir la préparation la plus calme et la plus sereine possible. Et on peut pas dire que ça soit le cas pour Renaud. Maintenant, il est dans une dynamique positive. Il saute bien, il se sent fort. Donc voilà, il faut juste qu'il gère ce petit incident de parcours d'ici les Jeux Olympiques.
En basket, sachez qu'en match de préparation au JO, les États-Unis ont perdu face au Nigeria 90-87. C'était hier à Las Vegas. Première défaite jamais encaissée par les rois du basket contre une nation africaine. Cela doit réjouir à un certain Joachim Noah que Bénédicte Tassard a rencontré au Rwanda. Elle est avec nous dans un instant, mais auparavant, retour sur la carrière du fils de Yannick Noah.
En 2004, à 19 ans, il rejoint l'université de Floride. Le pivot remporte le titre NCAA en 2006 et 2007. 2007, année de son envol en juin, il est retenu à la 9e place de la draft par les Chicago Bulls.
C'est une véritable star aux États-Unis. C'est un grand défenseur, un grand coéquipier, avec beaucoup de personnalité, un leader dans les vestiaires.
À 36 ans, le basketteur a annoncé mettre un terme à sa carrière après 13 saisons en NBA.
Joachim Noah, à 36 ans, le basketteur a quitté la NBA en mars dernier. 13 saisons parmi les plus grands, des Chicago Bulls aux Los Angeles Clippers, en passant par Memphis. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Pourquoi Joachim Noah ? Eh bien parce que vous l'avez rencontré au Rwanda lors de la première édition de la Basketball African League.
Oui, à la Kigali Arena. Il y a quelques semaines, Joachim Noah était dans les gradins pour soutenir ses 12 équipes africaines, des River Supers du Nigeria à l'US Monastir de Tunisie, en passant par l'AS Police du Mali ou encore les Patriots rwandais. Une compétition soutenue par la NBA américaine, la Fédération internationale de basket, l'Agence française du développement et des anciens joueurs stars. Il y a Dikembe Mutombo, originaire de la République démocratique du Congo, l'ancien pivot des Nuggets, des Hawks, mais aussi Joachim Noah, et tous ont créé cette NBA Africa.
Je suis super fier de faire partie de cette équipe NBA Africa. C'est vraiment une énorme plateforme qui peut vraiment nous aider à faire beaucoup de belles choses et nous donner une plateforme pareille en tant que joueur, ex-joueur, maintenant faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus important que le basket.
C'est-à-dire que vous investissez, vous, ici ?
Oui, je suis investisseur dans cette ligue. J'ai une association aux États-Unis, alors pouvoir aussi faire le pont des gens aux États-Unis et d'ici en Afrique est quelque chose de très important pour moi. Quand on pense aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment une bonne relation avec l'Afrique. Alors un truc qu'on a en commun, c'est le basket. Vous savez, en Afrique, des fois, surtout quand on vient de loin, des fois c'est difficile. Surtout en tant que joueur, on ne sait pas vraiment comment s'organiser. Et avec cette plateforme, maintenant, on a une chance de pouvoir s'engager avec beaucoup de gens et créer des belles équipes pour pouvoir faire des beaux projets.
C'est un super projet. Puis alors, ce timbre de voix, il est caractéristique des Noah.
On entend son père. Ouais, hein. Et Joachim Noah, il voulait s'exprimer en anglais, mais pour les auditeurs de RTL, j'ai réussi à le convaincre de parler en français.
Ben, en plus, voilà, il parle très bien.
Mais bon, il est très timide apparemment. Ouais. Alors, pour cette première édition, eh bien, ce sont les Égyptiens de Samalek qui ont battu l'US Monastir 73-63 et qui ont reçu le premier trophée de la Basketball African League représentant un baobab.
Joachim Noah à la retraite, hein, il a donc investi dans le Basketball African League et son avenir, comment le voit-il ?
Alors, pas d'annonce précise, mais le géant de 2m11 avec son bob sur la tête, son t-shirt rwandais, indique bien que l'Afrique fera partie de sa vie future.
Maintenant, je vais pouvoir passer beaucoup plus de temps sur le continent et vraiment travailler. Papa est là aussi, papa a son académie. Je m'associe avec des gens qui peuvent m'aider à faire du basket et mon héritage est ici. Et je suis super fier de mon héritage. Alors, dès que j'ai une chance de pouvoir faire quelque chose, je vais le faire. Je suis suédois, je suis français, je suis américain, je suis africain. Je viens de plein de différents pays. Alors, c'est sûr que mon patriotisme est un peu différent que d'autres. Mais je suis très fier de mon héritage africain. Je sais quelque chose que je vais pouvoir donner à mes enfants un jour. Ça va nous permettre de pouvoir voyager et leur montrer différentes cultures et leur montrer l'Afrique. Et ça, j'en suis très fier.
Joachim Noah qui habite en Floride et qui est au Rwanda avant de rejoindre son père Yannick Noah au Cameroun pour quelques vacances.
Ah oui, il y passe de plus en plus de temps, Yannick Noah au Cameroun, la patrie de son papa. On n'a aucun doute, Bénédicte, que Joachim Noah suivra quand même l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques.
Ah oui, vous savez Isabelle que Joachim Noah n'a pas porté souvent le maillot des Bleus, à 22 reprises seulement, entre 2009 et 2011. Mais son cœur, il battra bien pour les Français à Tokyo.
Ah ben, l'équipe de France est une très très bonne équipe et c'est vraiment une super opportunité de représenter la France. Et Rudy Gobert est en play-off maintenant, il joue vraiment vraiment bien. Alors ouais, on les supporte.
Vous les supportez ?
Ça c'est sûr.
Vous ne regrettez pas d'avoir si peu joué avec l'équipe de France ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Déjà, quand c'était à mon tour, j'avais beaucoup de blessures. Alors j'avais d'autres priorités.
Voilà Isabelle, il y avait un vide sur le continent africain pour le basket. Joachim Noah participe à le combler financièrement et dans les tribunes, il était très enthousiaste. Prochaine édition de la Basketball African League en mars et avril prochain.
Merci beaucoup Bénédicte Tassard, c'était un vrai privilège aussi d'avoir accès à Joachim Noah.
C'était une belle rencontre.
Vous écoutez RTL et vous avez bien raison, restez avec nous. Après la pause, nous prendrons la route du Tour de France.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien aujourd'hui en France. RTL.
Tour de France 2021.
15e étape, et oui, c'est serré en Dore-la-Vieille, 191 km, un homme en tête qui va remporter l'étape. Il s'appelle Sepp Kuss, c'est un coureur américain, il a 26 ans, il n'est pas très connu des pelotons. C'est un équipier de Roglic qui a abandonné le Tour de France de la formation Jumbo, vous le savez. Et bagarre au sein du peloton, mais Pogacar va conserver son maillot jaune, ne sera pas inquiété. Le grand perdant a pour nom Guillaume Martin.
Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
L'Américain Sepp Kuss s'est donc imposé à Andorre-la-Vieille, j'ai envie de dire presque à domicile, Nicolas.
Oui, oui, parce que il habite en Andorre, comme Julien Alaphilippe, comme Kenny Elissonde, comme Egan Bernal et d'autres encore dans le peloton. Donc évidemment, il connaissait parfaitement les environs et le final de cette étape qui a emprunté notamment le col de Béchalis, magnifique, ardu, raide, mais qui a proposé un beau final à ce peloton. Sepp Kuss, lui, le grimpeur de la formation Jumbo et dont le leader Roglic a quitté la course il y a de cela plusieurs jours. Donc il un petit peu plus de liberté. 10 ans qu'un Américain ne s'était pas imposé sur le Tour de France. C'était Tyler Farrar en 2011 à Redon au sprint. Et donc Sepp Kuss a devancé Valverde de 23 secondes. Puls de 1 minute 15. Le premier Français, c'est David Godu qui est 7e à 1 minute 15 également et qui faisait partie comme d'autres dans ce mini peloton de 32 coureurs qui étaient partis à l'avant pour essayer de faire la différence. Au classement général, Pogacar conserve le maillot jaune devant Uran 5 minutes 18, Vingegaard 5 minutes 32, Carapaz 5 minutes 33 et vous l'aurez compris et vous l'avez entendu, ouais. Je n'ai pas cité Guillaume Martin à la deuxième place malheureusement parce que c'est l'autre info de la journée, c'est Guillaume Martin deuxième qui a eu ses difficultés, qui a été lâché sur les derniers hectomètres du port dans Valira, surtout dans la descente et il a payé en fait les efforts d'hier.
Je m'y attendais, hein, je m'attendais à souffrir après les efforts qu'on sentit hier. C'était le port d'en Valira, c'était vraiment très très dur. Heureusement qu'il y avait du vent de face pour temporiser par moment, mais j'ai fini vraiment à la rupture et justement je pense que j'étais plus assez lucide pour la descente et c'est très frustrant parce que du coup je me fais lâcher dans les premiers lacets de la descente, mais je crois que c'était vraiment parce que j'étais à fond tout simplement et ensuite du coup dans la vallée on était juste à deux avec Mattia Cattaneo et j'ai fait avec les tripes à la fin, mais voilà, journée compliquée, mais voilà, je m'y attendais un peu, je prends les deux jours dans leur ensemble et voilà, ça reste deux journées pleines quand même.
Guillaume Martin, 9e du général à 7,58 de Pogacar à 2 minutes 26 du podium.
Eh bien justement, on va demander à son manager Cédric Vasseur un petit peu ce qu'il ressent après cette journée compliquée pour Guillaume Martin. Bonsoir Cédric Vasseur.
Bonsoir.
Alors hier vous disiez pourtant que Guillaume était capable de tenir le choc, ça a été compliqué finalement.
Je pense qu'il a tenu le choc parce qu'on n'a pas été battu à la pédale, c'est-à-dire qu'on est vraiment déçu ce soir parce qu'on n'imaginait pas que Guillaume se fasse décramponner dans la descente dans Valira. Bon, voilà, je pense que depuis sa chute au mois de janvier, on sent qu'on n'a pas vraiment un Guillaume très rassuré dans les descentes. Il est toujours sur la réserve. Et aujourd'hui, moi, je dois vraiment saluer le travail de toute l'équipe parce que la stratégie d'équipe a été parfaite. On avait placé Ruben Fernandez à l'avant, qui devait servir de relais à Guillaume Martin, mais on ne pouvait pas imaginer que Guillaume allait se faire décramponner dans la descente d'un groupe de 13 coureurs où personne ne s'est fait décramponner.
Benoît Lallemand.
Cédric.
Allez-y, Nicolas Georgerot sur le tour.
Non, Cédric, je veux savoir juste s'il y avait des signes avant-coureurs ce matin, ou est-ce que vous l'aviez trouvé aussi finalement, comme vous nous disiez hier soir, capable d'encaisser la pression et d'être bien au lendemain de ce qu'il avait accompli donc hier.
Non, non, il était bien. Alors, il était un petit peu inquiet forcément par rapport aux efforts qu'il avait consentis hier, mais on a senti sur toutes les difficultés qu'il était capable de suivre le groupe maillot jaune. Hein. Je crois qu'ils sont 13 à basculer au sommet d'Envalira. Et Guillaume fait partie de ce groupe. Et je pense que là, il a fait une erreur de positionnement parce qu'il était en dernière position. Il a pris 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. Et vous le savez, on a la télévision en direct dans la voiture des directeurs sportifs. Ineos était en train de rouler. Et je pense que quand les directeurs sportifs des autres équipes ont vu que Guillaume Martin était légèrement décramponné, on a demandé à Geraint Thomas d'accélérer. C'est le jeu. On est sur le Tour de France. C'est la course la plus importante de l'année. Et quand on est deuxième du classement général, on ne peut pas se faire piéger de cette façon.
Benoît Lallemand.
Oui, bonsoir Cédric. Juste peut-être, il faut expliquer comment on peut se faire piéger dans une descente, parce qu'on voit, assez régulièrement les coureurs être décramponnés dans les montées. Mais comment expliquer que dans les descentes, on puisse aussi se faire piéger et perdre comme ça 1 mètre, 10 mètres et puis bientôt quelques secondes?
Je pense qu'il y a un mélange de fraîcheur physique, et Guillaume l'a bien expliqué, hein. C'est vrai que quand on est à 2400 mètres, on est fatigué, on voit des fois plus très bien clair, hein. Au sommet du Galibier, c'est pareil, on est un petit peu parfois dans le brouillard. Mais ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est la terrible chute dont a été victime Guillaume au mois de janvier de cette année. Il était en stage en Sierra Nevada, il descendait la Sierra Nevada, qui est un col en Espagne, et il est parti de la roue avant. Donc je pense qu'il a toujours
une appréhension.
Exactement. Et nous, on a compris aujourd'hui qu'il y avait un travail important à faire pour lui redonner confiance, parce que c'est ni plus ni moins qu'un manque de confiance. On sent que Guillaume a besoin d'une distance de sécurité. Sauf que quand vous êtes avec un groupe de 13 coureurs dans une descente vent de face et vous gardez trop de distance de sécurité, eh bien, il se passe ce qui s'est passé, c'est que vous vous faites décramponner.
Excusez-moi, j'ai une question. Comment on fait travailler ça, justement, psychiquement, mentalement, à un coureur ?
Eh bien, je pense qu'il y a des spécialistes. On va faire appel à un coach mental. On en a déjà discuté avec la direction sportive. Il y a vraiment des gens, d'abord, qui essaient d'identifier, les craintes et les peurs de l'athlète. Et puis après, de le mettre tout doucement à l'aise, d'essayer de lui redonner confiance. Nous, on a quasiment les meilleurs équipementiers techniques, c'est-à-dire les pneumatiques Michelin sont les pneumatiques probablement les plus sûres du marché. Au niveau du matériel, Guillaume est bien. C'est vraiment cette appréhension, je pense, qu'il a toujours ce flash.
Il faut qu'il arrive à visualiser quelque chose qui ne soit pas une chute, en fait.
Exactement, et je pense qu'on doit pouvoir trouver des spécialistes qui travaillent aussi avec les skieurs. Vous savez, les skieurs sont quand même des athlètes qui vont à des vitesses importantes sur des pistes pas faciles. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment pris conscience de l'importance de ce travail à effectuer si on veut permettre à Guillaume de franchir un palier. Parce que dans la montée, on l'a vu, il est capable de suivre. Et pour moi, c'est un crève-cœur ce soir de voir Guillaume passer de la deuxième à la neuvième place, tout simplement parce qu'il s'est fait décramponner dans une descente qui était aujourd'hui une autoroute avec un vent de face. Il faut bien le dire.
Il peut jouer un rôle vraiment encore sur les étapes à venir dans les Pyrénées, Cédric ?
Bien sûr, parce qu'on connaît Guillaume, on sait qu'il a l'esprit revancheur. Il est un peu vexé ce soir, ce qui est normal. Et il est plus dangereux non plus au classement général. Donc ce qui s'est passé hier risque de se reproduire en troisième semaine. On va voir Guillaume repasser à l'attaque, aller se mêler à la bataille. Et j'espère que cette fois, ça sera sur des routes peut-être un petit peu moins périlleuses. Parce que c'est vrai que les circuits périlleux où on a une prise de risque, une vitesse importante, je pense que c'est à la fois la prise de risque et cette sensation de vitesse qui aujourd'hui crispe un peu Guillaume. Mais il y a de belles étapes, mardi, mercredi, jeudi prochain. Et je suis persuadé que Guillaume aura à cœur de retrouver le devant de la course.
Justement, vous restez avec nous, Cédric Vasseur. Les étapes à venir, Morad Djabari, vous êtes l'un des envoyés spéciaux aussi de RTL sur la Grande Boucle. Après la journée de repos, quelles sont celles qui sont à venir? Et est-ce qu'il reste encore une opportunité pour tous les autres pour déloger Pogacar?
Alors oui, on va entamer après cette journée de repos la semaine décisive avec trois étapes de montagne. J'ai calculé, il reste environ 476 km de montagne avec mardi la première entre Pas de la Case et Saint-Gaudens, 169 km avec une entame, on va pas dire pas facile, mais un peu moins compliquée que les suivantes, comme le confirme Julien Jurdi, c'est le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën.
À partir de mardi, il y aura trois rounds intéressants dans les Pyrénées. Heureusement que l'entrée est pas trop indigeste mardi, mais c'est clair par contre mercredi, jeudi, on va avoir deux gros combats avec deux grosses étapes de haute montagne avec deux arrivées en altitude. Donc là, il va falloir sauver un petit peu tout ce qu'il y aura à sauver le jour de ces deux étapes-là. Mais honnêtement, le tour n'est pas encore fini à tous les étages, que ce soit le top 10, top 5, podium, et même le maillot jaune, même si Pogacar n'a pas eu de faiblesse aujourd'hui, je pense qu'on peut s'attendre à une belle dernière semaine.
Alors voilà, comme le dit Julien Jordi, ce sera le moment de tout renverser. Il y aura ensuite, après Pas de la Case et Saint-Gaudens, deux étapes de haute montagne, comme il le disait, avec deux arrivées au sommet à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est donc là qu'on va retrouver les costauds, les leaders, et puis aussi les défaillances pour certains. Et c'est peut-être à ce moment-là que la décision va se faire. Sans oublier, évidemment, quelques jours plus tard, le samedi, le contre-la-montre individuel qui peut aussi faire des dégâts. Et on rappelle que le premier contre-la-montre avait été remporté lors de la première semaine par un certain Nicolas Georgerot, un certain
Tadej Pogacar.
Bravo.
Benoît Lallemand, une dernière question pour Cédric Vasseur.
Oui, peut-être que Cédric, comment vous avez senti Pogacar justement? Il s'est retrouvé assez vite, enfin pas assez vite, mais isolé. Est-ce que vous l'avez senti un peu tendu, fragile ou extrêmement serein?
Pas du tout. Hein. Je pense que Pogacar appartient à la classe des grands champions. C'est un coureur qui n'est pas perturbé. On l'a vu en haut d'En Valira, il était seul. D'ailleurs, à part l'équipe Ineos, tous les coureurs qui composaient le groupe de tête étaient seuls. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, on a vu Vingegaard l'attaquer. Il a montré aucun signe de faiblesse. Donc, je pense vraiment que Pogacar, à moins vraiment d'un retournement de situation, a d'ores et déjà gagné le Tour de France.
Ben voilà, ce sera le mot de la fin pour ce soir. Merci Cédric Vasseur, manager de Cofidis. Bonne dernière semaine sur le Tour de France et puis surtout bonne journée de repos demain.
Merci.
Merci à Nicolas Georgerot, merci à Morad Jabari. Essayez de vous reposer un peu les garçons avant la dernière ligne droite. Hein.
Non, nous c'est boulot.
Bonne soirée en tous les cas. Benoît Lallemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France?
Évidemment du foot avec la finale qu'on attend tous de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. Et puis du Tour de France, on va essayer de comprendre pourquoi les Français n'y arrivent pas. Il y a eu Julien Alaphilippe le premier jour et depuis, on les voit beaucoup, mais il manque un petit truc. Donc essayez de voir pourquoi.
Demain, eh bien, ce sera à lire dès 23h30 hein, pour les abonnés numériques. Merci Benoît.
Merci Isa.
À bientôt. La semaine prochaine, j'espère être à Tokyo, moi. Merci à Damien Béchiot, à Andreas pour la réalisation. Merci à Jules qui m'a aidé cet après-midi. Dans un instant, vous retrouvez les copains Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Baptiste Durieux et Philippe Sansfourche en direct de Londres pour la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie.